40. 7h04. Merci. Ce simple mot, à peine prononcé, tout juste chuchoté, à bout de souffle, se répétait à l'infini dans le subconscient de Jourdain Blanc-Martin. Quand il avait allumé son ordinateur à très exactement 7h du matin, en fond d'écran, à la place de l'habituelle photographie du marité au large de la presqu'île de Port-de-Bouc, s'était affiché le visage de sa mère. Il avait mis quelques secondes à comprendre, avant de se souvenir qu'il l'avait programmé il y a plusieurs mois pour ne pas oublier la date. Il y a 10 ans, jour pour jour, sa mère s'était endormie dans ses bras, dans le grand lit de sa maison de Saucelles-les-Pins, avenue de la Côte Bleue, face aux îles du Frioul. Tranquillement, sereinement, comme une petite étoile qui s'efface au matin pour laisser place à la lumière. Peut-être plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. « Merci », lui avait-elle murmuré avant de fermer les yeux pour laisser le noir entrer. « Merci, Jordi. » Ce furent les deux derniers mots de sa mère, pensa Blanc-Martin. Ce fut aussi la dernière fois qu'un être humain l'appelait par son véritable prénom, Jordi. Depuis que sa mère était partie, tout le monde l'appelait Jourdain. Ses 600 salariés, les 15 membres du conseil d'administration, ses 3 fils, sa femme. Blanc-Martin renvoya pour la 3e fois l'instruction à sa secrétaire. Ne pas oublier d'envoyer une couronne de fleurs au cimetière Saint-Roch et une autre pour la messe qui serait prononcée à 11h à l'église Saint-Césaire. Il avait beau fouiller au plus profond de sa mémoire, il ne conservait que peu de souvenirs de jeunesse avec sa mère. Quelques images et des bruits des manifs où elle le traînait, haut comme 3 pommes, sur la canebière, minot sous le drapeau de la CGT. Annette Blanc était une militante, une battante, une passionnaria portée par le mistral de la contestation sociale. Une rouge. Aussi rouge que son père Bernard Martin était incolore. Neutre, apolitique, abstentionniste. Militant de rien, nihiliste de tout après que les chantiers navals de Port-de-Bouc eurent fermé. Jordi avait grandi coincé entre la mer et les immeubles des Aigues Douces. Fréquenter l'école Victor Hugo, le collège Frédéric Mistral. Lors des rencontres parents-prof, où seule sa mère venait pour gueuler, il était le gamin dont on ne se souvenait pas. Jordi ? Jordi comment ? Jordi Martin ? Attendez, celui dont le prof commente les notes pas si mauvaises, sans se souvenir du son de sa voix. Jourdain resta de longues secondes à fixer le portrait de sa mère, avant d'enfin ouvrir le fichier texte. Tout était silencieux dans la villa Lalavera. Il disposait d'un peu de temps avant que sa fiétou n'installe le petit déjeuner. S'il se concentrait, ce serait suffisant pour jeter les bases du discours qu'il devait prononcer le lendemain pour l'inauguration du symposium Frontex au Palais du Pharo. L'agence européenne, pour s'acheter une virginité, avait adopté la stratégie risquée de confier l'introduction du séminaire aux associations. Carte blanche. Blanc-Martin n'allait pas les décevoir. Il se laissa pourtant distraire quelques instants avant de taper les premiers mots sur son clavier. Un regard tenté vers la piscine d'abord, puis vers la terrasse de Tech et la vue sur le port. Jourdain aimait comparer la rade de Port-de-Bouc à la mâchoire d'un fauve. Du haut de sa villa, l'illusion était bluffante. Le bout de la jetée recourbée formait un croc parfait, alors que les darses des quais, du port de plaisance au nord, pétrolier au sud, s'avançaient dans la baie entr'ouverte comme autant de dents aiguisées. Le vent s'était levé ce matin. Lui resta assis, résistant à l'envie d'aller vérifier si l'escaillon, le maribor et les autres bateaux du port étaient bien amarrés. Son introduction serait classique et consensuelle. Elle réjouirait les organisateurs locaux et rassurerait les invités internationaux. Jourdain rappellerait cet épisode de l'été 47, où Port-de-Bouc avait fait la une de l'actualité mondiale, quand 4500 réfugiés, juifs, rescapés de la Shoah, expulsés de l'Exodus, avaient été parqués par les Anglais, ici, dans 3 bateaux-prisons pendant 3 semaines, dans des conditions inhumaines qui allaient scandaliser le monde. Ce n'est pas sur cette page d'histoire qu'insisterait Blanc-Martin, mais sur la chaîne de solidarité spontanée, organisée par les ports de bouquins. Sa mère appartenait au clan des plus actives, loin des atermoiements entre autorités françaises et anglaises. Peut-être, d'ailleurs, avait-il fondé Vogelzug ici, à Port-de-Bouc, en souvenir de cet épisode inscrit dans la mémoire collective. Il enchaînerait sur une morale un peu naïve, mais qu'apprécieraient les politiques qui gouvernent par sondage. « Souvent, affirmerait-il en prenant exemple sur l'héroïsme ordinaire des ports de bouquins, les hommes et femmes qui prétendent ne pas vouloir partager leur territoire avec des migrants, des réfugiés, sont pourtant les premiers à leur porter secours, quand les étrangers tendent une main désespérée à quelques mètres de leur terre promise. Comme si leur racisme affiché n'était qu'une armure enfilée contre leur propre générosité. Une leçon d'humanité pour commencer. Tout le monde serait ravi, du maire de Port-de-Bouc aux représentants turcs, chypriotes et hongrois. Il sourit en relisant ses premières notes. Puis tica. Il hésitait un peu sur le mot « racisme ». Il aurait voulu en trouver un autre plus approprié pour désigner la peur des réfugiés. Il avait du mal à se concentrer. Ce matin, l'anniversaire de la mort de sa mère le ramenait des années en arrière. Jordi Martin. En septembre 71, il s'était inscrit à la faculté de droit d'Aix-Marseille. Lors du premier cours de droit constitutionnel, parmi les 200 étudiants, Jordi n'avait reconnu aucun jeune de Port-de-Bouc. Il avait eu l'impression que tous les autres venaient des quartiers riches et des communes chics, d'Aix ou du sud de Marseille, que son nom, comme son origine, le condamnait à ne jamais appartenir à la quinzaine d'étudiants qui sortiraient de l'entonnoir 5 ans plus tard, un master international ou un concours de haut fonctionnaire en poche. Quand le prof fit passer la liste d'inscription pour les TD, Jordi se contenta de tracer son prénom d'une écriture à peine lisible. Jordi devint Jourdain. Sur la même liste, il accola les 2 noms de famille de ses parents, qui ne s'étaient jamais mariés, Annette Blanc et Bernard Martin. Curieusement, il suffisait de rassembler ces 2 banals patronymes pour que ce nouveau nom composé sonne comme celui d'une dynastie de châtelains. À partir de cette rentrée 71, et pour tous ceux qu'il rencontrerait désormais, il serait Jourdain Blanc-Martin. Jourdain se passionna pour le droit des enfants, des victimes de guerre et de catastrophes naturelles, des sans-papiers. Il se persuada rapidement qu'on pouvait devenir aussi riche en se spécialisant dans le droit de la misère que dans celui des affaires. Quelques années plus tard, alors qu'il n'était encore qu'en master droit de l'homme et droit humanitaire, il fonda l'association Vogelzug. Blanc-Martin fixa une dernière fois un point imaginaire vers la mer, puis replongea sur son écran. Après cette introduction compassée, les participants invités par Frontex attendraient de lui qu'il dénonce avec force les passeurs, les dizaines de milliards générés par ce trafic négrier, les milliers de morts noyés en Méditerranée. Il n'allait pas leur servir cette rengaine-là. Il n'avait pas besoin de lui pour ça. Les tableaux distribués dans les valisettes des congressistes déclineraient jusqu'à la nausée ces chiffres. Frontex disposait de l'étrange privilège d'être chargé par l'Union européenne de mesurer les problèmes migratoires et de les résoudre. En d'autres termes, l'agence définissait le niveau de risque qui servait à négocier son budget, multiplié par 7 en 10 ans. Histoire de s'acheter quelques avions ou hélicoptères supplémentaires. Il se garderait bien, toutefois, d'attaquer frontalement Frontex. Il y aurait dans la salle des dizaines de militants pour dénoncer sa privatisation et sa dérive paramilitaire. Il préférait les cueillir avec cette imparable citation de Stefan Zweig. Il l'avait déjà souvent utilisée, elle produisait son petit effet. Rien, peut-être, ne rend plus sensible le formidable recul qu'a subi le monde depuis la Première Guerre mondiale que les restrictions apportées à la liberté des hommes. Avant 1914, La terre avait appartenu à tous les hommes. Chacun allait où il voulait et y demeurait aussi longtemps qu'il lui plaisait. Il enchaînerait ensuite en rappelant que l'humanité avait toujours vécu sans passeport. Les hommes n'avaient inventé ce morceau de papier qu'à l'occasion de la Première Guerre mondiale, en s'engageant à le supprimer sitôt la paix revenue. Cette promesse fut longtemps débattue à la Société des Nations, puis à l'ONU, avant d'être définitivement enterrée dans les années 60. La libre circulation des hommes sur la Terre, ce droit fondamental, historique, millénaire, n'était devenu qu'il y a à peine 50 ans une utopie à laquelle même les plus idéalistes ne croyaient plus. Une bonne claque aux idées reçues. Il enfoncerait le clou en précisant que le nombre actuel de migrants sur la planète était stable depuis des années, environ 3% de la population mondiale, soit trois fois moins qu'au XIXe siècle. Un paradoxe dans une société mondialisée, où tout circule bien plus vite et plus loin qu'au siècle dernier. L'argent, l'information, l'énergie, la culture, tout. Tout, sauf les hommes. Sauf la majorité des hommes. Les démocraties, désormais, construisaient des murs. Une véritable contagion depuis le 11 septembre 2001. Des murs non pas pour se barricader, mais pour filtrer, pour trier, pour passer les hommes au tamis des désirés et des indésirables. Pas de frontières plus militarisées, plus coûteuses, plus meurtrières que celles entre les États-Unis et le Mexique, alors que pourtant, des dizaines de millions de véhicules passent chaque année entre Tijuana et San Diego. Jourdain se relut et adora. Il se trouvait lyrique ce matin. Il se demanda même s'il ne pouvait pas aller plus loin, proposer la suppression pure et simple des frontières. Plus de frontières et plus de clandestins. Problème réglé. Frontex ne servait plus à rien. C'est une vérité vérifiée partout, et en particulier avec la chute du mur de Berlin ou la création de l'espace Schengen. Plus les gens sont libres de circuler, et moins ils s'installent ailleurs. Il releva les yeux. Lui seul pouvait se permettre de pousser la provocation aussi loin. Avec Vogelzug, il avait construit un empire aussi ambigu que Frontex. Les migrations clandestines faisaient vivre ses centaines de salariés, son conseil d'administration, sa famille. Bien vivre. À l'horizon, au-delà de la pointe de Carreau, il apercevait les criques de la Côte Bleue, les collines boisées abritant le mât de Saucelles-les-Pins, offert à ses parents en 1995. Un manoir sur la corniche, où la salle de bain à elle seule était plus vaste que leur appartement des Aigues Douces. Sa mère avait eu du mal à accepter un tel luxe. Mais son petit Jordi était si fier. Refuser ce cadeau démesuré aurait été comme mépriser sa réussite. Elle y était restée seule 9 ans après la disparition de son père, terrassée par un AVC sur le ponton où il pêchait. Avec la mort de ses parents, était mort le petit Jordi. Parti de rien, arrivé tout en haut. Son regard glissa sur le cordon d'immeubles des Aigues Douces, ouvert sur la mer, mais séparé du reste de la ville par un dédale de cul-de-sac. Une ascension que ne connaîtraient jamais ses enfants. Même si Geoffrey héritait, dans quelques mois, quelques années, de la présidence de l'association. Il se redressa sur sa chaise et évalua, avec gêne, la hauteur des barrières de sécurité de sa villa, des murs du jardin, identiques à ceux des résidences de ses fils, à Aiguille, Cabriès, Carry-le-Rouet. Né tout en haut, barricadé pour y rester. Jourdain consulta sa montre. Il se donnait encore une petite demi-heure pour avancer. Il lui restait de nombreux points à aborder, des sujets polémiques à déminer. La déstabilisation de la société française par l'arrivée de quelques centaines de milliers de réfugiés? Les 4 millions de Libanais avaient bien accueilli, sur leur micro-territoire, 6 fois plus densément peuplé que la France, 1,5 million de Syriens. Une catastrophe pour les finances publiques? Tous les économistes s'accordaient pour affirmer que l'accueil d'actifs étrangers était une chance pour l'économie, qu'il rapportait bien davantage qu'il ne coûtait. Déjà formés. Pas encore retraité. Jourdain Blanc-Martin s'apprêtait à tordre le cou à une nouvelle fausse vérité quand l'adagio de Barbeur l'interrompit. Il sortit son téléphone de sa poche. Pétard. Pétard Velika. Un mauvais pressentiment lui serra la gorge. Le commandant de police ne l'appelait certainement pas à cette heure pour lui annoncer qu'il avait coincé la meurtrière de François Valioni. Il se leva et observa le mistral secouer les coques des bateaux dans le port Renaissance.
« Blanc-Martin ?»«
Lui-même. »«
Je ne vais pas y aller par quatre chemins. On a un nouveau cadavre. Jean-Loup Courtois. » Exactement le même protocole que pour Valioni. Ligoté, veine du poignet tailladée, retrouvé dans une chambre du Red Corner. Chambre caravansérail cette fois et...
Vous n'aviez pas placé d'homme devant ? S'étonna Blanc-Martin.
Si, bien entendu. Ça va vous paraître incroyable, mais...
De toute façon, coupa le président qui se contrefichait des excuses du policier. Jean-Loup Courtois ne travaillait plus pour Vogelzug. Depuis près de 20 ans. Ça devrait être une raison suffisante pour que mon association ne soit pas mêlée à tout ça. Je compte sur vous, Velika.